Du 31 mai au 4 juin, RCF Charente célèbre les 40 ans de la radio libre. Au programme, une semaine de souvenirs, d'actualités et d'avenir de la radio. Nous donnerons la parole à toutes celles et tous ceux qui ont fait, font et feront ce média multiple. Radio FM, web radio, radio scolaire, podcast, de la 16 à Zaïzaï, de Radio Attitude à RDC. Toutes les radios fêtent les 40 ans de la radio sur RCF Charente du 31 mai au 4 juin. Vivez la radio libre!
CF Charente, à Cognac, sur 89.9.
Et il est 15h18 précisément sur RCF Charente pour cette émission spéciale consacrée aux 40 ans des radios, une émission qui est diffusée aussi, je dois le rappeler, sur Radio RDC, Radio Diffusion Charentaise, et sur Radio Attitude en ce moment même, qui reprend cette émission pour les 40 ans des radios. On s'est dit que ce serait bien de mélanger un petit peu les programmes. Ce matin, vous le savez, vous avez pu entendre une partie du programme de RDC sur Radio RCF. Cet après-midi, c'est sur RDC qu'on entend une partie du programme de RCF. Enfin voilà,
c'est
un joyeux petit mélange.
Parfait.
Richard Tallet, donc vous êtes avec nous parce que vous avez, j'allais dire, commencé dans le métier. Non, c'est pas vraiment ça, mais vous avez goûté à la radio, à Radio Accor, à Poitou.
Ouais, alors on peut dire que c'est comme ça aussi que j'ai commencé dans le métier, même si aujourd'hui je suis journaliste de presse écrite à la Charente Libre. C'était quand même mettre le pied dans l'univers médiatique et dans l'univers de l'information. Alors à l'époque, sur RDC, Radio Accor à Poitiers, j'étais étudiant. Et avec une bande de copains, on animait une émission de cinéma le mercredi soir. Et c'est marrant parce que donc, tout à l'heure, j'entendais effectivement Eric ou
Christelle
parler des Bobineaux. Mon premier souvenir en arrivant dans les studios à Radio Accor, c'est le bénévole qui m'accueille et qui me dit et qui commence à m'expliquer comment la technique fonctionne, puisqu'en plus sur cette émission, j'étais plutôt en régie
et je
laissais mes camarades dans le studio faire les chroniques. Et donc du coup voilà, je me retrouvais devant ces énormes bobineaux à couper les bandes, à trouver le bon endroit pour mettre le morceau de scotch, etc. Et c'était vraiment chouette. Enfin, il y avait un côté artisanal que je trouvais vraiment intéressant. Il y avait aussi la possibilité... Enfin, on disait ce qu'on voulait, en fait. C'était ça qui était chouette. C'est-à-dire qu'on était étudiants, on était dans une radio qui dépendait d'un diocèse, mais on n'est jamais venu nous demander des comptes sur ce qu'on racontait. On avait une vraie liberté et c'était un vrai plaisir de le faire tous les mercredis soirs.
Ouais. Et ça, vous gardez ce souvenir-là de liberté?
Ouais, parce que alors moi j'ai connu le gamin l'arrivée des radios libres et peut-être que j'étais un peu jeune pour me rendre compte ce que ça voulait dire les radios libres. Et finalement en l'expérimentant 10 ans après, puisque c'est ça, je suis arrivé en 92 je pense à Radio Accor, en l'expérimentant 10 ans après, en entendant 10 ans après, je me suis rendu compte l'importance que ça pouvait avoir. C'est-à-dire que alors très honnêtement, je pense qu'il devait y avoir 10 personnes qui écoutaient notre émission de cinéma, qui devaient en avoir marre parce que la CD-Tech à l'époque de Radio Accor à Poitiers contenait très peu de CD contenant de bandes originales de films. Donc ils entendaient à peu près
les mêmes
morceaux chaque mercredi. Mais en même temps, on se faisait plaisir et on expérimentait aussi le partage et... La critique de cinéma est un genre assez particulier, mais du coup, on a pu faire nos armes. Et pour tout vous dire, dans cette émission qu'on faisait le mercredi soir, il y avait une copine que j'ai jamais revue depuis qu'elle est partie de Poitiers, qui s'appelait Marina Mieltzarek et qui est devenue journaliste à France Inter. Je crois que la radio a été un tremplin aussi pour plein de gens. Parce que cette liberté permettait d'expérimenter quelque chose. On ne nous demandait pas des diplômes, on ne nous demandait pas d'être d'excellents techniciens, on ne nous demandait pas d'être parfaitement rigoureux sur tout.
Ça s'entendait d'ailleurs.
Ça s'entendait et parfaitement, et on n'avait pas les prestations d'autre chose. Mais du coup, on a pu expérimenter.
Et apprendre.
Je reprenais le nous collectif, hein, parce que oui, c'est pareil. Pas contre vous, Richard.
Je l'entends collectivement, il n'y a pas de souci. Mais c'était chouette. Enfin, c'était il y avait un côté laboratoire, il y avait un côté. Ouais, c'est ça. On faisait nos armes, et puis les gens nous regardaient et nous accompagnaient avec bienveillance. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Alors, on va peut-être faire une aparté. Aujourd'hui, c'est un peu le drame du monde du travail. C'est que dans les entreprises, on attend d'un salarié qui est jeune, embauché, d'être optimal dans son travail, d'être qualifié en tout. Et c'est pas forcément ça. Et inversement, le nouveau salarié qui rentre veut tout de suite avoir
le
poste le plus haut.
Alors, j'ai peut-être une vision un peu naïve des choses, et peut-être que l'entreprise dans laquelle je travaille est un peu particulière. La Charente Libre. Je suis pas sûr qu'on ait l'exigence de la perfection optimale dès le début chez les gens. Quand on regarde aujourd'hui l'équipe de journalistes qui travaille à la Charente Libre, il y en a beaucoup qui sont pas sortis d'école, qui sont arrivés justement et à qui on a permis de bricoler un peu, qu'on a accompagné. Enfin, et d'ailleurs c'est une des choses qui fait que j'aime le journal dans lequel je suis, c'est qu'il y a encore cet esprit aussi de dire qu'on donne la chance aux gens. Alors peut-être que dans le monde du travail globalement, effectivement, c'est moins ouvert que dans l'entreprise dans laquelle je suis. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était ça. On n'avait pas besoin d'être parfait. On avait juste besoin d'être là et la radio nous accueillait dans notre diversité et dans notre folie aussi, parce que voilà, c'était un peu fou. Enfin, ce que je racontais tout à l'heure avant le début de l'émission, un mercredi soir où donc j'étais en technique et je me retrouve tout seul. Il y avait aucun de mes copains de fac était au rendez-vous ce soir-là, et donc j'ai dû improviser une heure d'émission tout seul avec 4 bandes originales de films à passer et rien de préparé. Donc je pense que pour les auditeurs à ce moment-là, ça a dû être une émission un peu surréaliste. Mais voilà, je l'ai fait, et avec la grosse dose d'adrénaline au début, de voir le studio noir et puis moi en régie tout seul. Et puis voilà, ça s'est fait. Et puis c'était chouette, c'était de bons moments, quoi. Enfin,
Eric Cotel,
c'est moi.
Oui, vous êtes bon spécialiste bande dessinée ici à Radio RCF Charente, mais vous êtes prof de philosophie. Est-ce que cet enseignement en liberté comme ça apporte beaucoup à l'humain?
Oui, la question c'est de savoir si la société le supporte. Ce qu'il y a il y a 40 ans, c'est ce que rappelait Richard Tellet, il a raison. C'était des laboratoires, c'était effervescent. Moi j'ai dit des trucs à l'antenne qu'à l'heure actuelle, si j'en disais le dixième du quart, j'aurais des ligues de vertu sur le dos et j'aurais un tas de problèmes. Donc oui, il y avait une vraie liberté. Je me souviens de mai 81, j'étais minot, mais enfin bon, le mois de mai, Mitterrand est élu. Moins d'un mois après, je suis derrière un micro. Je commence là avec Patrick Mongou qui avait monté 102 bis, 102, puis après 102 bis. Après, j'ai fait l'ancêtre de Radio Marguerite. Puis j'ai fait Radio Marguerite. J'ai fait Europe 2 où j'ai été pigiste journaliste pendant longtemps. J'ai rencontré Christelle, donc vous avez eu tout à l'heure au téléphone. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Donc que j'ai commencé les chroniques pour ma bande dessinée. J'étais un vrai passionné avant. Mais bon, je tâtonnais un peu. Je faisais des émissions sur tout ce qui m'intéressait, on va dire. Et je me rends compte de la formidable liberté qu'il y a eu pendant un an ou deux. De 81 à 82, avant finalement que la haute autorité, puisque c'est comme ça qu'on a appelé l'instance de régulation, s'en mêle. Pas de publicité, donc il fallait trouver des modes de financement. Je ne sais pas, vous en rappelez certainement l'un comme l'autre que c'était compliqué. Beaucoup de radios sont tombées, passées à la trappe. Il fallait avoir des financements collectifs, associatifs. C'était compliqué. Mais il y avait une énergie dingue. On faisait ce qu'on voulait, on disait ce qu'on voulait, on arrivait avec des idées, c'était OK. On pouvait dire des trucs de fou. Maintenant, non, mais même sans, je parle sans être ni graveleux, ni quoi que ce soit, je dis simplement, il y avait un vrai ton nouveau. Bon, et qui a d'ailleurs égrené, parce que si ce qui a libéré les médias plus tard, je parle des grands médias maintenant, cette façon, on dit souvent il y a eu l'époque Coluche, oui, Coluche sur Europe 1, mais avant Coluche sur Europe 1, il était sur RMC, il faut rappeler, qui était même une ancienne radio pirate. Donc, cette libéralisation...
Édouard Baird a commencé sur Carbone 14,
Nova avec Wiesmann, on a eu la fesse, évidemment, sur Carbone 14, tous ces gens-là qui sont devenus ensuite, je termine, des gens assez visibles dans les médias, ont apporté un ton nouveau qui a décoincé les médias. Les plus anciens se rappelleront de la télévision qu'on passait du dimanche après-midi avec Jacques Martin, etc. Et même avant, où il y avait un balai, où je pense, et pas un mot plus haut que l'autre. Je veux dire, l'ombre du général planait et de Giscard.
Il y avait quand même eu un moment des proches chez Jacques Martin.
Oui, c'est vrai que...
Le petit rapporteur.
Pour le petit rapporteur, je parlais du Jacques Martin des dimanches après-midi. Ouais. On était dans une France assez corsettée. Ouais. Et la radio, telle que nous l'avons vécue, de l'intérieur, tous les trois, ça a été un dynamitage qui, petit à petit, s'est répercuté sur les grands médias et qui a libéré cette parole. Et là, c'était le prof de philo qui vous faisait une analyse. Ouais. Ça vous va, monsieur Charbonnier ?
Merci beaucoup, professeur.
Mais alors, après, là où moi, je ne suis pas totalement pessimiste... C'est que je pense que cette liberté, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les radios, mais la presse écrite, enfin les médias, les grands médias en général, sont redevenus un peu plus sages, et que cette liberté, en fait, on la retrouve sous d'autres formes sur Internet, avec où il y a énormément de créations, ce qu'on appelle vulgairement les YouTubers, il y a énormément de choses qui se passent et qui me dépassent. Moi aujourd'hui, je l'avoue, voilà, je suis pas, je vais pas beaucoup sur TikTok ou ce genre de choses, mais il se passe énormément de choses, et je pense que cette liberté s'est déplacée sur ce canal-là.
Sur les web radios aussi, avec cet avantage qu'il y a par rapport à la radio avant, c'est que sur Internet, on sait précisément combien de personnes ont regardé ou sont en train de regarder, ce qui n'existe pas avant à la radio. On ne savait pas si vraiment il y avait du monde qui écoutait.
Et on s'en foutait.
Si c'était qu'il y avait du bouche à oreille, on savait qu'on était écouté, ça revenait.
Je vais faire une analogie avec mon métier de presse écrite. Et je dois dire que... le jour où on est passé sur Internet et où on pouvait avoir des audiences, et même des audiences très précises, puisqu'on savait qui lisait quel papier et dans quelle proportion, je trouve qu'on a perdu quelque chose. C'est-à-dire que ça nous oblige. Alors, on essaye de ne pas s'y plier complètement, mais ça nous oblige aussi à réfléchir aujourd'hui, à dire ah mais mon papier, est-ce qu'il va marcher, pas marcher. Alors que le fond de notre métier à l'origine, c'est quand même de ne pas se poser cette question-là, c'est de créer un papier parce qu'on pense qu'il est pertinent.
C'est ce que j'essayais de dire quand j'ai dit en filigrane, on s'en foutait.
On s'en fout.
On se fichait un peu, effectivement, de savoir si on était... On ne faisait pas la chose pour être écouté. On la faisait parce qu'on pensait qu'il fallait la faire. Voilà. Et si elle trouvait une audience, on en était très content. Ouais. Mais je rejoins tout à fait ce que dit Richard Talley.
Et là, en tout cas, alors, après, sur mon métier qui est l'info, l'intérêt pour nous, c'était vraiment la pertinence de l'info. Mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce que nous, journalistes, on pense comme une info pertinente, c'est pas forcément l'info qui va faire le plus d'audience. Alors, il faut arriver à trouver un équilibre entre tout ça. Et je suis pas sûr que pour les journalistes, avoir accès à l'audience, ce soit la meilleure chose. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore en se disant, si ça marche, je vais plus faire que ça. Non, alors, heureusement, on fait pas ça. Mais c'est vrai que c'est un élément qui ne nous importait pas et qui ne devait pas nous importer.
Il est 15h30 sur RCF Charente, comme il est 15h30 sur Radio Attitude ou sur Radio Diffusion Charentaise. C'est l'heure d'une pause musicale de 13 années 80. Avec Culture Club.
I have